Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier, Monsieur le Secrétaire perpétuel, mes chers confrères, Mesdames, Messieurs, quand vous m'avez demandé, Monsieur le Président, de venir parler de l'éthique de la recherche, vous m'aviez demandé ça, l'éthique de la recherche en psychiatrie, je me suis dit, c'est pas possible, il faudrait d'abord qu'il y ait une recherche. Et je mettrai en exergue ici une phrase de deux historiens de la psychiatrie, Postel et Quetel, qui s'énoncent « Jamais science ne s'est autant cherchée, mais la psychiatrie en était l'une de science. » Après une petite introduction, je montrerai qu'en quatre étapes, la psychiatrie a peut-être accédé à un stade scientifique. En introduction, je rappellerai d'abord que, comme le disait Georges Canguilhem, une science médicale ne se constitue qu'à l'appel des patients ou des familles. Les troubles mentaux sont très répandus. L'Organisation mondiale de la santé avait, en 2001, fait le point de l'état de la santé mentale autour du monde. Et il ressortait de son état des choses qu'une personne sur quatre souffrira à un moment ou à un autre de son existence d'un trouble mental. Une sur quatre. Et nous sommes en train d'arriver à entre 7 et 8 milliards de personnes. Quelles sont les grandes pathologies relevées par l'Organisation mondiale de la santé? La dépression, première cause d'incapacité dans le monde, arrêt de travail, etc. Dépendance à l'alcool ou à d'autres drogues, mais de façon beaucoup plus minoritaire. Autisme infantile, 2 enfants sur 1000. Si on prend le terme autisme infantile au sens étroit, 6 ou 7 sur 1000 si on étend le spectre autistique comme c'est en train de se passer maintenant. Anorexie mentale, boulimie, schizophrénie. 1% de toutes les populations de la Terre dans tous les temps. Avec des symptômes qui ne sont pas dépendants des conditions culturelles ou d'environnement. Troubles obsessionnels compulsifs ou TOC, fréquents chez les intellectuels. Et on voit monter actuellement la maladie d'Alzheimer. Le message de l'Organisation mondiale de la santé était à l'époque, je cite, concernant ces personnes atteintes d'un trouble mental, nombre d'entre elles souffrent en silence et beaucoup souffrent seules. Fin de citation. Je résume la suite. En l'absence de soins, ces personnes sont l'objet de stigmatisation, d'exclusion. On ne sait pas assez que 10% des schizophrènes finissent par se suicider. 10%. Or, disait le rapport de l'OMS, on sait aider ces personnes, on ne sait pas les guérir, mais on sait rendre les troubles compatibles avec une vie normale ou presque normale. Il faut les aider. Mais aider prend du temps, aider prend de la patience. Les psychiatres disent souvent qu'ils n'ont pas le temps de faire de la recherche parce que les malades, ça prend du temps. Ça prend tout le temps. Et même les malades psychiatriques sont bien connus pour faire une tentative de suicide le jour où vous partez en vacances. Et puis, tous les malades sont différents. Les psychiatres aussi sont différents. Et les psychiatres vous disent que pour chaque malade, on essaye de trouver la meilleure solution. Et cette meilleure solution ne se trouve pas dans les livres. C'était ma première remarque d'introduction. Ma seconde remarque d'introduction, c'est que l'Association mondiale de psychiatrie, qui tout récemment a sorti un livre qui déplore la tendance de la psychiatrie à s'émietter en petits morceaux, dit que pour éviter à la psychiatrie de demain de se dissoudre, la perspective historique est indispensable. Donc il faut se souvenir de l'histoire de la psychiatrie pour comprendre ce qui se passe. Je suivrai cette injonction. Et je commencerai toujours dans mon introduction par monter le tableau un peu préhistorique de ce qui s'est passé avant que la psychiatrie existe comme discipline médicale. On remarque d'abord que les maladies mentales sont connues des hommes depuis très longtemps. Il y en a des descriptions de la schizophrénie, par exemple, 13 avant notre ère. Et puis vous connaissez le livre de Robert Burton sur l'anatomie de la mélancolie, Londres, 1632. La description de la maladie mentale existe avant la psychiatrie. Existe aussi avant la psychiatrie l'idée qu'il faut créer des hospices pour accueillir les fous qui sinon souvent errent dehors. Ces fous que, au fur et à mesure qu'on se civilise, disons, on va appeler les insensés, en anglais les lunatiques, et puis au XIXe siècle, les aliénés. Cette idée qu'il faut créer des lieux pour héberger les fous se concrétise en Europe au début du XVe siècle en Espagne. L'Espagne ouvre alors dans plusieurs villes des hôpitaux spécialement destinés aux fous. Et c'est un héritage des Arabes qui, dès le 8e ou le 9e siècle, avaient fait la même chose en prévoyant une assistance pour les fous dans les hôpitaux. Ce sont d'abord des ordres religieux qui hébergent les fous. Et on remarque que les grands hôpitaux psychiatriques, ceux qui éventuellement sont encore connus, c'est l'hôpital de Londres, le Bedlam, ouvert au XVIe siècle, l'hôpital d'Amsterdam. À Paris, l'hôpital de la Charité a été ouvert en 1602 par les religieux de Saint-Jean-de-Dieu, qui ont aussi ouvert un peu plus tard l'hospice de Charenton. Aller à Charenton a longtemps signifié aller chez les fous. Saint-Vincent de Paul, en 1632, a lui aussi aménagé la léproserie de Saint-Lazare pour héberger les fous. Puis, les États ont commencé à juger qu'il est de leur responsabilité de faire ce travail, de l'hébergement des fous. On ne parle pas encore de soins, parce qu'il s'agit de soins, de les nourrir et de les coucher. Je dois citer alors l'édit de Louis XIV, qui en 1656, milieu du XVIIe siècle, décide de créer, je cite, l'hôpital général pour le renfermement des pauvres mendiants de la ville et faubourg de Paris. Pauvres mendiants, c'est-à-dire pauvres et mendiants et plus ou moins lunatiques. Vous avez bien entendu le mot renfermement, c'est ce qui a inspiré à Michel Foucault l'hypothèse du grand renfermement dans sa thèse. Qu'il interprète comme un moment auquel, dans l'histoire, la raison expulse la déraison et la cache. Cette interprétation de Michel Foucault est très critiquée actuellement par les historiens de la médecine. D'autant que les États ont aussi entrepris, en Angleterre, en France, en Allemagne, de contrôler les établissements restés privés qui hébergeaient des fous. En Angleterre, il y a eu une Lunacy Commission, une commission pour des lunatiques qui allait vérifier comment ils étaient traités. Il faut reconnaître, ils étaient souvent assez maltraités et hébergés dans des endroits très sales. Et la lettre de cachet en France pour enfermer quelqu'un dans un hôpital privé, pour les fous, la lettre de cachet était indispensable afin que l'État sache où la personne se trouvait et puisse vérifier qu'on ne lui faisait pas trop de mal. Cette idée de la lettre de cachet a été complètement prise à l'envers par les gens de la Révolution française qui ont dit « on libère tous ceux qui sont là sur lettre de cachet ». Mais en fait, la lettre de cachet pour les fous était protectrice, en fait. On peut dire que la psychiatrie à visée scientifique n'existe qu'à partir du XIXe siècle. Auparavant, on a des hôpitaux pour les fous, mais on n'a pas de science. Le mot « psychiatrie » est créé en Allemagne au début du XIXe siècle, mais il n'est en usage véritablement qu'au XXe siècle. Au XIXe siècle, on dit les médecins des aliénés ou les aliénistes. Et la discipline, l'aliénisme. Le traitement, lorsqu'on en arrive au XIXe siècle, en son début, le traitement qui commence, l'idée qu'on peut faire un peu de bien aux aliénés, s'appelle le traitement moral. C'est une idée qui est venue d'Angleterre, qui a été reprise en France par Philippe Pinel. Pinel qui n'a pas lui-même libéré les fous de leur chaîne, comme la légende, comme ses enfants en ont répandu la légende. En fait, c'est son infirmier chef, Pucin, qui était un grand costaud qui en imposait, et qui disait « c'est pas la peine de les battre, il n'y a qu'à les tenir ». Mais Pinel a fait un énorme travail méthodologique en faisant des fiches, en montrant comment on prend les observations de telle façon qu'on puisse les comparer les unes aux autres et faire avancer un petit peu la connaissance de ces états de maladie. Quant au véritable traitement moral, qu'est-ce que c'est ? C'est un apprentissage du vivre ensemble. Le modèle asilaire de la psychiatrie se constitue au XIXe siècle à partir de l'idée que si on leur apprend à vivre ensemble dans un endroit bien organisé et propre, on les rend capables de vivre de nouveau comme tout le monde. Et à partir du milieu du XIXe siècle, des architectes, avec les psychiatres, ont commencé à rechercher ce que serait le meilleur milieu hospitalier pour les fous. C'est une recherche comme une autre. Les hôpitaux psychiatriques devenant alors comme de petites villes, cernées d'une enceinte, avec à l'intérieur les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, ici les tranquilles, là les bruyants, etc. Ce modèle asilaire était encore vivant au moment de la Seconde Guerre mondiale, en gros. Quel traitement proposait-on en dehors de cette socialisation ? La douche, le bain, la douche, le bain froid, le bain chaud. Essentiellement l'eau. Ce qu'il faut retenir du XIXe siècle, c'est qu'en France, en 1838, on a eu la loi sur le placement des aliénés, une loi qui encadrait la manière d'entrer à l'hôpital psychiatrique. Cette loi a duré plus de 150 ans. Elle a été modifiée très récemment. Et en 1843, la création du premier journal de psychiatrie au monde, qui s'appelle les Annales médico-psychologiques, qui ont commémoré récemment leurs 170 ans avec une journée sur le lithium à laquelle j'ai participé. Et j'y reviendrai en conclusion. J'arrive, vous voyez que j'étais à toute vitesse, j'arrive à la fin du 19e siècle, moment où Sigmund Freud vient à Paris assister aux présentations de Charcot. Charcot est neurologue. Il montre des hystériques et les traite par l'hypnose. L'hypnose que Freud va essayer, et dont il va se détacher pour trouver autre chose. J'en arrive à la première étape sur la voie de la science qui se dessine à la charnière fin 19e, début 20e siècle. À ce moment-là, on peut dire que tout est en place pour qu'une science des maladies mentales se développe. D'abord, on a des aliénistes de première classe dans toute l'Europe. Korsakov à Moscou, Gilbert Ballet à Paris. Gilbert Ballet, c'est le créateur à la fois de la Société de neurologie et de la Société de psychiatrie, qui vont ensemble. C'est aussi le fondateur du journal L'Encéphale, qui existe toujours aujourd'hui. À Munich, vous avez Émile Kraepelin. Kraepelin a une magnifique clinique psychiatrique avec un lieu de recherche. Et ça existe encore. C'est devenu un Max Planck Institute für Psychiatrie. En Angleterre, Henry Maudsley, qui, sur le mode de Kraepelin, a construit au sud de Londres un grand institut de psychiatrie lié à un hôpital qui existe encore. C'est la Maudsley Foundation Trust. Et puis, comme je l'ai dit, vous avez à Vienne Sigmund Freud et vous avez à Zurich Eugène Bleuler. Il y a, à ce moment, une alliance stratégique entre les neurologues et les psychologues, y compris les psychiatres. Et Freud écrit, à peu près à ce moment-là, le concept d'après lequel l'élément psychique est en soi inconscient a permis de faire de la psychologie une branche des sciences naturelles. On sent déjà dans la première moitié du XXe siècle, en dépit de cette collaboration entre les psychologues, les psychiatres, les neurologues, on sent déjà une tension qui se manifeste chez les psychiatres par une différence entre ce qu'on peut appeler un modèle objectiviste de la maladie mentale. Ce modèle objectiviste s'est dessiné parce que la paralysie générale qu'on classait jusque-là parmi les maladies mentales s'est avérée un avatar de la syphilis. Et d'autre part, Alzheimer a déjà donné ses résultats vers le début du XXe siècle à propos d'une maladie qui se manifeste psychiquement, mais qui correspond à des signes cérébraux qu'on peut mettre en évidence. Donc ça, c'est le modèle objectiviste d'une psychiatrie de tendance organique, disons. La maladie est organique. À côté de ça, se dessine un autre modèle, appelé le modèle dynamique à l'époque, ou un modèle fonctionnel. Et là, se rattachent à cette tendance ceux qui ont commencé à utiliser l'hypnose comme moyen de traitement ou de mise en évidence, de traitement, hein, et qui pensent que, comme Freud le fait, sous les symptômes objectifs, il y a des pulsions, des conflits, des résistances à transfert, toutes sortes de choses qui sont des actions de nature psychique. Mais, dans cette première partie du XXe siècle, Freud et Kraepelin, qui sont attachés à deux modèles différents, s'accordent sur un monisme naturaliste. Freud écrit, par exemple, que, à son époque, ce qu'il fait, lui, c'est d'utiliser des terme psychologique pour décrire un certain nombre de troubles. Il utilise le vocabulaire de la psychologie, mais il ajoute, dans quelque temps, avec le développement de la biologie, on mettra sous le vocabulaire psychologique des mots de la biologie et cela permettra peut-être de critiquer les hypothèses qu'on a faites avec les mots de la psychologie. C'est dans « Au-delà du principe de plaisir ». Peut-être justement la biologie nous apportera des réponses, je cite, « susceptibles de renverser d'un souffle tout notre édifice artificiel d'hypothèses ». Donc, Freud n'est pas du tout hostile à l'idée que sous le psychisme, il y a toujours un substrat physiologique. Dans cette première partie du XXe siècle encore, les ressources thérapeutiques, c'est toujours essentiellement l'eau, la douche, le bain, des bains qui pouvaient durer 8 heures. On laissait le malade dans l'eau. Sinon, avant la Seconde Guerre mondiale, on a eu plusieurs essais de thérapeutiques de choc des maladies mentales. Choc par contagion de la malaria, par coma insulinique, électrochoc, et puis chirurgie, la maladie mentale. Ces thérapies de choc, seul l'électrochoc a survécu. Et les autres peuvent être assimilés aujourd'hui rétrospectivement à un coup de pied dans la télévision quand elle est en panne. Deuxième époque de ce XXe siècle, milieu du XXe siècle, je l'ai intitulé l'époque de la scission. J'ai dit tout à l'heure que on sentait qu'il y avait deux tendances dans la neuropsychiatrie. Ces deux tendances vont se séparer. Et cela à l'occasion d'un événement ébouriffant qui s'est produit juste après la Seconde Guerre mondiale et qui est la découverte de tous les grands médicaments psychiatriques pratiquement d'un seul coup. Ces médicaments sont tombés dans l'escarcelle des psychiatres sans qu'ils les cherchaient. Ils ne faisaient absolument aucune recherche de ce côté-là. Et sans qu'ils aient la moindre formation en biochimie, en plus. Ces découvertes leur sont venues par les anesthésistes de la recherche industrielle. Et ces produits sont tout d'abord les sels de lithium, 1949, puis les neuroleptiques, traitement des psychoses délirantes, puis les antidépresseurs, enfin les anxiolytiques, 1959. Entre 49 et 59, tous les grands médicaments psychiatriques ont été découverts. C'était inattendu, car jusque-là, on connaissait des drogues qui rendent fous, plus ou moins fous, à commencer par l'alcool, d'ailleurs, mais on ne connaissait aucun produit qui pouvait ramener un fou à l'état normal. C'était extraordinaire. La psychiatrie biologique est alors née. C'est une naissance donc, qui commence dans les années 1950-60. Et la recherche que font les psychiatres, fortement entraînés d'ailleurs par des gens qui connaissent la chimie et la biochimie, ce qui n'était pas leur cas dans leurs études, la recherche pharmacologique s'oriente vers les neurotransmetteurs avec l'idée que le siège de la maladie, c'est la synapse. C'est-à-dire la jonction entre les neurones. L'un des grands psychiatres français qui s'est signalé par un ralliement précoce à cette psychiatrie biologique, c'est Édouard Zarifian, qui a ensuite parlé d'une guerre de religion entre les deux camps, car l'autre camp va être foncièrement, du moins en théorie, contre les médicaments. À côté de cette recherche pharmacologique qui se forme aussi du côté des médecins psychiatres, une recherche clinique visant à mettre au point les bonnes pratiques des essais de médicaments sur l'homme. Mais attention, la loi française qui a autorisé des essais sur l'homme date de 1988. Or, je parle ici d'une période qui commence en 1949. À cette époque-là, l'expérimentation sur l'homme n'était pas interdite, mais si on faisait une boulette, on se retrouvait en prison. C'est-à-dire, si on tuait quelqu'un, non, il y a eu des morts qui ont été couverts par l'ordre des médecins, mais enfin, quand même. Hein. Les essais de ces nouveaux médicaments psychiatriques ont été faits sous le couvert du traitement sur les malades. C'est-à-dire, on leur a donné les nouvelles substances directement, en disant, on les traite autrement qu'on avait l'habitude de faire, voilà, on les traite, on essaye. Et il n'y avait, à ce moment-là, aucune éthique de la recherche, aucune éthique de l'essai sur l'homme, rien du tout. Le premier essai fait par Delay et Deniker des nouveaux neuroleptiques a été publié sous le titre « 38 cas de psychose traités par la cure prolongée et continue de 4560 RP ». C'est le nom du médicament, enfin de la substance chimique. Cette psychiatrie biologique qui s'est mise en place a longtemps été assez minoritaire. Elle cherchait manifestement à soigner les gens. Elle découvrait que la maladie mentale, ça se soigne. Ça ne se guérit pas, mais ça s'améliore. Et Zarifian, qui s'est lancé dans cette psychiatrie biologique, disait que ça améliore, mais au bout d'un certain temps, on se rend compte que le comprimé ne suffit pas à aider le malade. Mais cette psychiatrie biologique minoritaire a subsisté à côté d'une autre psychiatrie qui lui était tout à fait étrangère, et qui était la psychiatrie humaniste ou anthropologique. Celle-là ne cherche pas à soigner, et de moins en moins, jusqu'à Lacan par exemple, de moins en moins elle prétend soigner. C'est un courant de la psychiatrie qui est intellectuellement fascinant, passionnant, qui utilise des éléments de plusieurs types de philosophie, phénoménologie, existentialisme, herméneutique, et la recherche que font les personnes qui, enfin, si on peut appeler ça, oui, de la recherche, des gens qui pratiquent ce type de psychiatrie, c'est l'étude de cas. On étudie le cas. On expose le cas dans un vocabulaire qui est celui de la phénoménologie ou celui de l'existentialisme, etc. De ce côté, on a un grand nombre de gens célèbres, de grands esprits, de grands intellectuels. L'un des plus connus et lus, même encore maintenant, par les psychiatres, les jeunes, c'est Binswanger. Tellenbach est connu pour avoir écrit sur la dépression. En France, on a eu Minkowski, Tatossian. Tous ces gens-là se réclament de Jaspers, initialement. Et effectivement, Jaspers avait écrit dans son grand traité de psychiatrie, qui date du début du XXe siècle, je le cite, « La phénoménologie, première étape de la démarche scientifique, a pour objet l'étude des états d'âme tels que les malades les éprouvent. Elle veut nous les représenter sous une forme concrète et considérer leur rapport de parenté. Elle essaye de les délimiter, de les distinguer, de les nommer. » Mais pour Jaspers, c'était une première étape. Et pour beaucoup de psychiatres qui ont pris cette voie, c'était la seule étape. Un exemple. Binswanger, dans son étude de cas qui s'appelle le cas Urban, qui a été traduit en français, nous dit qu'il fait le portrait, en somme, d'une dame qui a été dans une situation terrorisante, et elle a été submergée par la terreur, et il montre comment, de ce cas particulier, on peut tirer l'essence anthropologique que ce cas illustre, et montrer que cette appréhension de l'essence pure du terrifiant, je cite, est une possibilité existentielle. Nous pouvons tous nous trouver dans cette situation. La littérature existentielle, psychiatrique existentielle ou psychiatrique phénoménologique est considérable. Je mentionnerai ici seulement le cas de Irving Yalom, Yalom, et son livre Existential Psychotherapy, la psychothérapie existentielle. Et Yalom est toujours vivant, je crois. Son œuvre a un succès considérable, il est traduit dans toutes les langues. Et je dois dire que quand on lit, c'est passionnant. Maintenant, si, pour terminer cette réflexion sur la seconde étape, on découvre des médicaments, les uns les utilisent. Mais que fait le psychiatre moyen qui n'a ni un grand écrivain ni un grand chimiste? Eh bien, le psychiatre moyen, pratiquant, sa main gauche ignorant ce que fait sa main droite, d'une main il prescrit les médicaments et de l'autre il fait un peu de psychothérapie. Et puis il lit. Il lit, les psychiatres sont les seuls médecins qui lisent, à ma connaissance. J'arrive à la troisième époque, l'époque 1965-1990, c'est-à-dire en gros la seconde partie du XXe siècle, que j'intitule « La dérive ». Et je ne suis pas la seule à intituler ça « La dérive ». Cette dérive a un aspect pragmatique et fructueux, c'est la mort du modèle asilaire de la psychiatrie. Entre 1960 et la fin du siècle, la psychiatrie asilaire disparaît, s'efface. En Italie, elle a complètement disparu à la fin du XXe siècle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'hôpitaux psychiatriques. En France, on en a encore quelques-uns, mais on a considérablement diminué le nombre de lits. Il y a de moins en moins de lits de psychiatrie, et donc de moins en moins de personnes qui peuvent entrer dans ces services, et puis on ne passe plus du tout sa vie dans les hôpitaux psychiatriques. Dans les temps très anciens, on pouvait pratiquement vivre sa vie entière jusqu'à l'hôpital psychiatrique. Ça ne se fait plus, on va ponctuellement à l'hôpital psychiatrique, une semaine, deux semaines, on se fait virer le plus tôt possible, et si on n'est pas capable de se reloger d'une façon ou de l'autre, car il y a pas mal de malades psychiatriques dans la rue actuellement, mais s'ils ne peuvent pas se reloger tout de suite, on leur paye des nuits d'hôtel. Alors voilà, c'est comme ça que ça se fait. Mais le côté positif de ce changement de paradigme, c'est qu'on s'est rendu compte que on a mis longtemps à se rendre compte en France, mais que le modèle asilaire n'était pas efficace et qu'il coûte cher. Ça coûte très cher à la collectivité de garder toute leur vie des gens dans un hôpital et de s'occuper d'eux, de leur faire à manger, de leur changer leurs draps et tout ça. Tout ça pour ne pas les guérir, puisqu'ils restent. C'est devenu insoutenable, surtout avec la création, après la Seconde Guerre mondiale, de la Sécu, la sécurité. Les soins psychiatriques sont gratuits. Et dans les années 50-60, les familles qui avaient des vieux pépés un peu tremblants, comme ça, on trouvait que c'était bien mieux de mettre les gens à l'hôpital psychiatrique parce que c'était gratuit, alors que les maisons pour les vieux, c'était payant. On est arrivé à des hôpitaux psychiatriques qui avaient énormément surchargé et pas forcément de malades psychiatriques caractérisés. Ça, c'est le côté positif. On a changé de modèle et il fallait changer de modèle. Le modèle précédent était épuisé. En même temps, les internes en psychiatrie, les étudiants en psychiatrie se sont révoltés. Ils se trouvaient maltraités, ils étaient moins payés que les internes en neurologie. Je ne sais pas pourquoi, une subsistance. Hein. Et puis, ils se trouvaient malheureux d'avoir à apprendre la neurologie. Ils ont lancé des journées de réflexion sur la psychiatrie en 1965, ce qu'on a appelé 68 avant 68. Et ils ont rédigé le premier livre blanc de la psychiatrie française. Qu'a-t-on entendu durant ces journées et qu'a-t-on lu dans le livre blanc ? On ne veut plus apprendre la neurologie, ça suffit. Ils l'ont obtenu. On devient psychiatre sans être de spécialiste de neurologie après ça. Du tout. Ça a été jusqu'au point où les psychiatres en apprentissage ont été tentés de quitter massivement la fac de médecine pour se réfugier dans les facs de lettres. Et ils n'ont été rattrapés par les cheveux, m'a-t-on dit, que quand on a changé, quand on a fait la réforme de l'internat. La formation du psychiatre, d'après ces jeunes internes en psychiatrie, la formation du psychiatre, c'est la psychanalyse, point. C'est la formation que j'ai eue. Hein. Pas de cours, à peine d'examen, mais faites-vous analyser. Aux États-Unis, pareil, je le dirai tout à l'heure. Intériorisation de l'antipsychiatrie. Ces jeunes psychiatres pensent que la vérité est du côté de l'antipsychiatrie. La maladie est une construction sociale. Les malades ne sont pas des vrais malades. Ils sont différents de nous, c'est tout. Un événement curieux. À la suite de ça, on observe curieusement une explosion démographique de la discipline psychiatrique. Tout le monde voulait faire de la psychiatrie, se faire analyser et devenir psychanalyste, forcément. Le livre blanc de la psychiatrie, dans un tout petit chapitre sur la recherche, mais vraiment très, très petit, écrit ceci: le champ de la psychiatrie s'étend des catécholamines à la sociologie et à la métaphysique et de la pompe à sodium à l'herméneutique et à l'eschatologie. Vous m'avez bien suivi ? Tout, hein ? Tout est la psychanalyse. Ça a été en France très fort, mais ça a été un mouvement assez mondial. Et Eric Kandel, le prix Nobel de psychiatrie de l'année 2000, a écrit quelque part que sous l'influence de la psychanalyse, la psychothérapie est devenue le seul outil que savent pratiquer les psychiatres américains. Lui, il a filé vers la biologie. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, il faut remarquer au passage, mais je ne vais pas m'y appesantir, que Michel Foucault a été très proche de ce mouvement-là. Mouvement qui a été représenté en Angleterre par Ronald Ling, par exemple, en Italie par Basaglia, et aux États-Unis par Thomas Sasse. Cités tous par Foucault. Cités par Foucault dans son cours au Collège de France de 1973-74 qui s'appelait « Le pouvoir psychiatrique ». La psychiatrie était un pouvoir et pas une médecine. Au cours de cette période, le journal Le Monde publie un beau jour un article du docteur Escoffier-Lambiotte, qui était la dame qui faisait la chronique de la médecine dans Le Monde. Elle écrivait ceci: le néant scientifique sur lequel repose à l'heure actuelle la psychiatrie, vous m'avez entendu, le néant scientifique l'offre à toutes les déviations, à toutes les erreurs, à tous les empirismes, et la conduit tout droit, si elle n'y prend garde, à une sociatrie qui lui ferait assumer peu à peu toutes les déviances, non des individus, mais de la société elle-même. Donc, la psychiatrie, ce n'est pas une science, c'est une doctrine, c'est une politique, c'est tout ce qu'on veut. Et pourtant, dans un quatrième temps, je vais essayer de montrer qu'il y a déjà, dans les années 80-90, les prodromes d'une reconstruction et un effort de redevenir scientifique. D'abord, dans cette seconde partie du XXe siècle, les Américains, quelques Américains psychiatres, se sont rendus compte que la même personne souffrant de troubles psychiatriques était diagnostiquée différemment aux États-Unis et en Angleterre. Et ça, c'était vraiment troublant. Les diagnostics étaient... je crois que ça allait dans le sens qu'en Europe, il y avait beaucoup plus de déprimés que de schizophrènes, et aux États-Unis, tout le monde était schizophrène et il n'y avait pas beaucoup de déprimés. C'est bizarre. Ils ont donc décidé qu'il fallait s'entendre sur la manière de porter le diagnostic. Et ils ont dit qu'il fallait appuyer le diagnostic sur des signes qu'on peut relever dans le cas de la personne, indépendamment d'une théorie. Balayer la théorie freudienne, ce qui a beaucoup irrité beaucoup de psychiatres, puisque les Diagnostic and Statistical Manuals, les manuels diagnostiques et statistiques que les Américains se sont mis à fournir, ne donnent bien que la manière de faire un diagnostic à partir de ce qui est observable, constatable, quand on est devant le malade. La classification, il y a eu plusieurs séries de DSM, de Diagnostic and Statistical Manual. Le quatrième, alors chaque fois ça progressait, ça s'affinait, le livre devenait de plus en plus gros, actuellement c'est devenu un livre énorme, on en est au 5. Le 5 n'est pas en faveur du tout, mais le DSM-4 a été traduit en français par les soins d'une équipe sous la direction de Guelfi, un psychiatre parisien. Et la manière de faire le diagnostic a été à ce moment-là plus ou moins acceptée de notre côté français, bien que l'INSERM conserve toujours sa propre classification. Mais il y a en réalité maintenant une classification internationale des maladies dans laquelle le chapitre psychiatrie est accepté à peu près par tout le monde. Voilà. Il y avait aussi des résistances à l'attitude un peu laxiste. Il n'y a plus que la psychothérapie, le reste. Par exemple, André Bourguignon avait essayé de faire des cours sur la manière de faire de la recherche clinique, c'est-à-dire sur la manière d'essayer les médicaments sur les malades en se comportant correctement. Et Bourguignon justifiait son effort en disant que les dangers, je le cite, « les dangers que les assertions non prouvées font courir aux malades sont plus grands que les interférences produites par la recherche ». Parce que les psychiatres disaient beaucoup, quand on fait de la recherche, les malades, ça les trouble, ça les perturbe, ça leur fait du mal, c'est pas bon pour eux. Et Bourguignon répond, appliquer des principes qui ne sont pas sérieusement établis et prouvés, c'est encore pire pour les malades. Voilà. Donc un peu de bon sens restait dans la collectivité. Il y a eu, entre 1991 et 1997, il y a eu 8 rapports sur la recherche en psychiatrie, rapports tous très bien intentionnés, venant de l'INSERM, le CNRS, toutes les grandes institutions qui se prétendaient connaître ce que c'était que la recherche, et qui disaient, psychiatre, réveillez-vous, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de recherche convenable en psychiatrie, qu'est-ce qui se passe? Et ces rapports, 8 rapports en 6 ans. Ces rapports disaient tous à peu près la même chose. Je cite le rapport Massé. « La bonne volonté est générale et n'a d'égal que l'incompétence dans ce que doit être une recherche clinique rigoureuse. Les psychiatres français ont souvent d'excellentes idées, une bonne culture générale, sont capables d'émettre des hypothèses très intéressantes, mais n'ont pas conscience que la recherche clinique nécessite une méthodologie, un protocole, de la rigueur, une exploitation statistique des résultats. » Fin de citation. En 1991 aussi, l'INSERM prend l'initiative de réunir, parce qu'il y avait toutes sortes de sociétés françaises, de toutes sortes de sociétés de psychiatrie en France, d'associations de psychiatres. L'INSERM réunit dans une seule salle. J'ai participé, j'étais toute neuve et c'était étonnant. Sous la présidence de Glowinski, professeur au Collège de France, on réunit des représentants de 21 sociétés de psychiatrie et on leur dit, de la part de l'INSERM, si vous vous regroupez dans une fédération française de psychiatrie, on vous donne de l'argent pour faire de la recherche. Eh bien, ce regroupement s'est fait au forceps. Il a donné une fédération française de psychiatrie qui a un site internet actuellement, mais peu de recherches. Cette fédération française de psychiatrie a de nouveau réuni des états généraux de la psychiatrie française en 2002, a produit un second livre blanc de la psychiatrie. Et la seule constatation vraiment neuve, ça a été celle-ci. Il y a à l'heure actuelle, enfin en 2002, 12 500 psychiatres en France, 4 millions de patients psychiatriques inscrits comme patients. Alors qu'à la fin du 19e siècle, il y avait en France 120 psychiatres. On est passé de 120 à 12 500. C'est vraiment explosif. Cela dans un contexte international qui encourageait les psychiatres à faire de la recherche, aussi bien du côté de l'Organisation mondiale de la santé que du côté de l'Association psychiatrique mondiale, où les Français ont d'ailleurs été assez longtemps majoritaires ou avec des fonctions. Et puis, il y a eu les appels aux psychiatres d'Eric Kandel, dont je parlais tout à l'heure, ce prix Nobel de médecine de l'année 2000, un prix Nobel psychiatre, ça ne se rencontre pas tous les jours. Et Kandel a fait deux grandes interventions très solennelles devant les psychiatres américains, tous rassemblés. Une fois avant son prix Nobel et une autre fois juste après son prix Nobel, devant l'Association américaine de psychiatrie. Et Kandel a été très habile dans son message. Son message a été de leur dire « Vous qui êtes tellement attachés à la psychothérapie, voire à la psychanalyse, mais enfin, aux États-Unis, il y a toutes sortes de psychothérapies de genres différents. Vous qui êtes très attachés à la psychothérapie, vous avez derrière vous une multitude, un stock de cas psychiatriques individuels. Il y en a même qui les ont souvent racontés, ces cas psychiatriques individuels. Dites-vous qu'à partir de maintenant, nous savons que quand une personne est en traitement, quand la personne est sur le divan du psychanalyste, il se produit dans son cerveau des changements structuraux et on va pouvoir les suivre visuellement bientôt. Ça, il anticipait un petit peu, c'est pas encore vraiment possible, mais on pourra désormais suivre le progrès des psychothérapies par un examen du cerveau. Bon, quand elle proposait tout un cadre de travail renouvelé, un cadre conceptuel, bon, je n'entrerai pas là-dedans. Quand elle a rédigé une autobiographie qui retrace son parcours, et son parcours est très, très typique en un sens, il a écrit que... Et bon, je le cite, en traduisant. « Je suis entrée à l'université Harvard parce que j'avais envie de devenir historien. Puis, en cours de route, j'ai découvert que j'avais envie de devenir psychanalyste. Alors, j'ai quitté l'université Harvard. C'est bon, ça, il a été psychanalysé, d'après ce qu'il dit, hein, et il est psychiatre. Hein. Et puis, finalement, il dit « J'ai suivi mon intuition que le chemin pour comprendre l'esprit passe par des cheminements dans le cerveau. » Effectivement, il a fait de la biologie du cerveau, il a travaillé sur la mémoire. Sur la mémoire, sur la souris. Bon. Il a tout de même suggéré un cadre programmatique en disant que les psychiatres, désormais, doivent pouvoir relier la psychanalyse ou la psychothérapie ou enfin toutes sortes de thérapies par le langage avec la neurobiologie moléculaire. Qu'il faut absolument faire de la psychiatrie une seule science socio-psycho-biologique. Et on commence à en voir de petites réalisations. J'ai vu, par exemple, dans la revue L'Encéphale, revue de psychiatrie clinique, hein, un article qui montre que chez des enfants qui avaient des troubles psychopathologiques, on a découvert une déficience de l'audition et on a pu établir un lien entre cette déficience auditive et un problème psychiatrique. Bon, il y a aussi à la Pitié-Salpêtrière en ce moment des recherches sur la stimulation cérébrale profonde et l'usage qui peut en être fait alors, sur des personnes souffrant de troubles psychiques. Ils ont commencé avec des personnes atteintes du syndrome de Gilles de la Tourette. Vous savez ce que c'est ? C'est les gens qui ont des tics et qui disent des gros mots tout le temps. Ils sont pris d'un accès et ils disent des horreurs. Et puis, bon. Et actuellement, cela se joue aussi du côté des bipolaires, c'est-à-dire les gens qui sont dans un état horriblement dépressif. On essaye, et j'ai vu, alors je n'ai pas vu en direct, mais j'ai vu un film où il montre que la personne elle-même qui est malade, on lui confie le boîtier par lequel on peut ajuster le courant des électrodes qui sont plantées dans sa tête. Et la personne qui... Alors, moi, ce que j'ai vu, la personne qui, au début du film, est complètement affaissée, là, et qui a vraiment l'air d'un déprimé profond, cette personne commence à remuer et à mettre le courant, à augmenter le courant, et on la voit refleurir, si je peux dire. On la voit sortir de son état dépressif, sourire, hein, c'est extraordinaire. Bon. Je ne dis pas que ça va se généraliser en psychiatrie, mais c'est pour signaler qu'il se fait actuellement en psychiatrie des petits essais pour lier ce qui se passe au niveau de la psychothérapie à ce qui se passe dans le cerveau. Je conclurai en disant deux mots de cette journée sur le lithium à laquelle j'ai participé en octobre 2013. Elle se passait à l'Académie de médecine de Paris. Et elle était organisée pour commémorer les 170 ans des Annales médico-psychologiques, ce journal qui a toujours gardé un peu le lien, qui a tenu les deux bouts, comme on dit, le lien avec les psychiatres biologiques et avec les psychiatres psychothérapeutes. Le lithium, et sans discussion, le lithium, c'est un corps matériel, et c'est aussi le plus ancien psychotrope qu'on avait un peu abandonné parce que l'administration de ce psychotrope est un peu compliquée. Et du jour où on a eu des antidépresseurs un peu forts, là, on a laissé le lithium. Puis on y revient parce qu'on se rend compte que c'est un excellent stabilisateur de l'humeur. Et chez les gens qui réussissent à bien se stabiliser avec le lithium, c'est magnifique, paraît-il. Je n'ai pas l'expérience. En tout cas, il est admis actuellement que le petit ion lithium, Li+, pour les chimistes, un truc de rien du tout, fait à peu près aussi bien chez les bipolaires, qu'une thérapie cognitive. Or, le petit ion lithium, c'est une petite chose qu'on avale, alors que la thérapie cognitive, ça se parle. Alors, comment ça marche? Alors ça, il est il est plus facile de saisir le principe de fonctionnement des batteries au lithium qui font marcher les voitures électriques. Vous savez que dans Paris, on a des voitures électriques qu'on peut prendre des bottes comme ça. Ça marche au lithium, avec des piles au lithium. On peut comprendre. Enfin, les gens qui savent disent qu'on comprend très bien comment ça fonctionne. Alors que comprendre comment l'ion lithium introduit dans l'organisme humain est susceptible de désamorcer une pulsion suicidaire ou d'éteindre une euphorie mégalomaniaque, ça, point d'interrogation. Mais le fait est là. Le fait est là et met en évidence que l'intérêt de la psychiatrie actuellement, c'est qu'elle se tient sur la ligne de crête entre l'esprit et le cerveau. Alors, comment ça se passe entre l'esprit et le cerveau? Descartes disait ça passe par la glande pinéale. On n'en est plus là, mais au moins, on sait que ça passe la frontière. La psychiatrie actuellement, elle est en situation de passer ces frontières entre cerveau. Et parce que ça marche aussi dans l'autre sens. La psychothérapie entraîne des changements cérébraux. Donc, on exerce un pouvoir là qui montre que le passage est possible, sans qu'on comprenne encore tout à fait, mais en recommandant de tenir les deux bouts, de ne pas oublier que ça passe. Voilà, je vous remercie de votre attention.